ça bosse.
Oui, bah je me renseigne, je me renseigne.
Alors, c'est qui l'invité alors?
C'est Francis Renaud.
Ah.
Si, si, non, mais tu sais pas qui c'est, mais tu sais qui c'est.
Ah, mais c'est philosophique.
Non, enfin, disons que c'est vraiment c'est une gueule du cinéma français. Quoi.
Ah, il vient pour un film.
Non, un livre.
Ah, ah bon.
Bah, bah, c'est toi qui l'as choisi, tu dois bien savoir qui c'est.
Ah, non, moi je pense que c'était toi qui l'avais invité, parce que tu l'avais croisé bourré à la fin d'une soirée mondaine.
Ah, non, pas ce coup-ci, non, bah, sonne-toi Guillaume.
Salut les amis.
Ah, bah, félicitations, Francis Renaud.
Bah oui.
C'est qui? Je connais pas ces deux personnes.
Mais non, il est tout seul, Francis Renaud. C'est pas un ami gauchiste que t'aurais invité par hasard.
Non, je crois pas.
Si, allez, rappelle-toi, ça devait être une soirée débat sur l'importance du prolétariat dans la société d'aujourd'hui.
Non,
allez, à la MJC Salvatore Allende de Blanc-Ménil. Voilà.
Non, je vous jure, c'est pas moi.
Mais alors, mais qui l'a invité?
Mais c'est qui? Monte la couverture là. Ah, mais je vois qui c'est, je connais.
Mais oui, mais tout le monde le connaît. C'est l'acteur fétiche d'Olivier Marchal. Il a joué pour Clapiche, pour Breillat, pour Dahan. Et puis il a une vie.
Oh là là, génial.
Ah oui, non, mais le type est écorché.
Ah, c'est intéressant ça.
Ah oui, mais le livre s'appelle La rage au cœur.
Mais on devrait l'inviter, ce type.
Mais oui, et c'est même pour ça que j'ai voulu qu'il vienne.
Ah, bah alors.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up publique et par conséquent une émission qui crée de la dette. Alors voici les trois informations qui vont aussi faire chuter le PIB de la France. Même la presse étrangère s'inquiète du désarroi des policiers français. À la fin de l'année dernière, ils ont accumulé 21 millions d'heures supplémentaires non récupérées.
Ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout.
Nancy fait marcher ses concitoyens. La ville les incite à se déplacer à pied ou à vélo contre des ristournes et des tickets de cinéma. Et elle attribue les mollets d'or. Alors, qu'en pensent les cinéphiles qui reçoivent les tickets, par exemple?
Mais attendez-moi, bon sang! Mais dépêchez-vous! Eh ben, j'ai les pieds gonflés, là!
Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant se retrouvent en ce moment sur les planches de Deauville devant la caméra de Claude Lelouch pour une suite de la suite de Un homme et une femme.
C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité.
Ah, j'avais rien dit, moi. Lui m'a promis que pour nos 80 ans, on refera un par Jupiter. Le président ayant notre âge, on pourra l'inviter, peut-être. Alex Vizorek.
Oui, surtout, vous m'avez pas promis que pendant 80 ans, on arrêterait par Jupiter.
Non,
donc,
ça,
vous voyez, c'est ça le problème.
Anouk Aimé et Trintignant, ils ont pas fait que ça dans leur vie non plus. Hein.
Heureusement, j'ai une belle équipe pour m'entourer, me soutenir. À 17h20, celle qui déshabille nos défauts de manière beaucoup plus crue qu'elle ne s'effeuille elle-même, c'est Constance, bonjour.
Je suis contente d'être là, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est super bien.
Qu'est-ce qu'on va raconter?
On parle de contraception.
Oui. Un bon sujet. À 17h30.
Vaseline aussi, non?
On verra.
C'est jamais impossible. Si l'expression qui aime bien châtie bien est vraie, il doit être l'homme qui adore le plus ses compatriotes.
J'adore.
C'est Guillaume Meurice.
J'aime les gens, je suis fou de gens. Je suis allé au salon du tourisme pour bien rappeler au monde entier que Manu Macron est champion de la Terre, par exemple, au stand belge.
Non, nous on fait pas de politique, on est trop dans le voyage pour faire de la politique.
Ah, parce que vous avez encore le seum.
Il y a 17h40, hier, elle était en promotion à Bruxelles pour son livre sur Aliénor. Et ça, quelqu'un lui a sûrement dit, la mer du Nord, c'est par là, ma bonne dame. Bonjour Clara Dupont-Moineau.
Bonjour Alex.
C'était bien les Belges avec vous?
C'était super.
Hein,
je crois qu'elle n'a pas
vous
compris.
Vous me le rendez pas bien.
Si, ça m'atterre. Alors on va parler de quoi Alex, parce que vous me le demandez?
Ben,
eh bien du livre de notre invité et d'un autre qui raconte une évasion.
Très bien.
Et oui, voici celui que nous avons invité dans l'Open Space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Victor Hugo.
Oh là,
ah merde,
merde.
La prétention du gars. Voilà.
Elle est légère. Non, Francis, quoi. Francis Renaud, oui. Bien sûr. Ouais, on peut rigoler, non? On va se détendre surtout, hein, Francis. Tout va bien. J'adore, t'aimes pas Victor Hugo?
Vous êtes pas tendu, quoi.
Il préfère Marc Lévy, je suis sûr.
Mais il connaît,
il connaît pas bien la haute couture.
Ah, d'accord. Oh, dommage.
Francis Renaud, on vous connaît comme acteur, notamment, on l'a dit, dans les films d'Olivier Marchal. Vous êtes en train d'en tourner un, d'ailleurs.
Je reviens des Landes, de Léon, où Philippe Guillard a posé sa caméra pour une comédie qui s'appelle Papy Sitter.
Ah, d'accord.
Papy Sitter.
Ouais, il y a un jeu de mots.
Oh, tu crois?
Ouais. Ah, je l'ai repéré, attention, je suis malin, moi.
Et là, vous avez écrit La rage au cœur, publié chez Hugo Doc. Alex Vizorek.
Oui, bah moi,
je vous laisse, Francis Renaud.
Des acteurs, évidemment, parce que vous parlez de vous, de votre vie. Je laisserai peut-être cette facette-là à la découverte des gens, et puis pour parler de votre métier. Et surtout, le cinéma, il est toujours présent depuis le tout début. Avec Walt Disney d'abord, c'est lui qui vous
chat.
Ouais, c'est lui qui vous sort un peu d'une jeunesse compliquée, difficile que vous avez du mal à vivre.
On a tous plus ou moins.
Oui, mais vous avez choisi de la vie. Quoi. Mais vous avez choisi de la décrire.
J'ai pas le parcours d'Edouard Baird, c'est sûr. Hein.
Ah, je le connais pas.
Je viens de Lorraine, je suis fils d'ouvrier.
Voilà, on est à Thionville.
Voilà, je suis né à Thionville, ouais, tout à fait. Ouais.
Et donc, votre maman travaille en partie dans un cinéma et là, vous voyez Merlin Enchanteur, les Aristochats, tout ça.
Il était une fois la Révolution. Mm-hmm.
Donc là, on n'est plus dans le dessin animé.
Ah non, là, on est dans dans un film.
Ouais. Dans un film qui vous a marqué.
Oui, profondément. Ouais. La musique aussi.
Mm-hmm. Et puis, il y a James Dean plus tard.
Avec alors James Dean, oui, ça vient plus tard. Ouais, c'est Stanislas Dubois, malheureusement, qui est décédé d'une leucémie à l'âge de 15 ans à Saint-Jouarre-Miremont, quand j'étais interne, et qui, avant de partir, m'a offert une biographie sur laquelle je me suis accroché pour... voilà, ouais, j'aime beaucoup James Dean.
Et vous vous projetez un peu dans cet homme, et vous vous dites, ça doit être un beau métier, mais si je veux être moi-même James Dean, il va falloir au moins faire 3 films.
Oui, et puis mourir à 25 ans.
Ouais. Oui.
Voilà. Donc j'ai un objectif. Un objectif, c'est de mourir à 25 ans et d'en faire 3, ouais.
Passer le permis de conduire aussi, quand même.
Oui, oui, aussi, bah oui. Ouais.
Donc
ouais,
vous n'avez pas de choix direct quand, comment ça va se passer. Mais, et donc vous vous attaquez Paris, comme tout jeune comédien qui a envie de réussir, c'est ici que ça se passe.
Rastignac, on vous appelle.
Ah, c'est, il y a un peu ça, quand même. Oui, oui. Ce côté à nous de Paris.
Paris me voilà, Paris j'arrive.
Ouais, vous aviez un peu ça quand même.
Bah, non, mais j'avais ça depuis l'enfance, parce que j'avais un besoin de me raccrocher à quelque chose pour ne pas sombrer. Voilà, à l'âge de 8 ans, mon père est mort d'un cancer généralisé. J'étais trop jeune pour le perdre. On m'a pas dit que mon père était mort, donc c'était assez compliqué. J'ai découvert ça quand ma grand-mère, Suzanne, m'amenait au cimetière, qu'elle engueulait le bon Dieu et qu'elle m'appelait Daniel alors que je m'appelle Francis. Et je disais, mémé, mais non, moi je m'appelle pas Daniel, je m'appelle Francis. Et c'est comme ça que j'ai découvert, voilà, une... Mon père était allongé dans un cimetière et par la suite, c'est un peu compliqué, mais c'est
à cause de son boulot, il est.
Ça, je sais pas du tout. Il a attrapé ça à 23 ans, un cancer d'Hodgkin, donc c'est des glandes de partout, et puis il a été malade pendant 2 ans, il a même demandé une arme pour mettre fin à ses jours. Mon grand-père n'a pas eu le courage, et ma mère faisait les voyages de Thionville à Nancy quasiment tous les jours.
Où elle lui écrivait des très belles lettres.
Elle lui a écrit une belle lettre, qui est dans le livre d'ailleurs.
Que vous reproduisez dans le livre.
Oui.
Olivier Marchal dit de vous, parce que enfin vous vous livrez, donc je me permets de... il dit « Ta souffrance, tu la portes comme d'autres abordent leur sourire niaiseux et leur malaise de petits acteurs bourgeois engoncés dans leur égocentrisme face à des caméras qui les filment sans les aimer. »
Là, tu parles de Vincent Cassel ?
Non, il n'est pas assez musclé.
C'est marrant ce que vous faites, parce que...
Non, je plaisante. Oh.
Non, mais
Joker.
Vous balancez.
Non, Joker.
En 2 minutes, vous vous êtes comparé à Edouard Baird, à Vincent Cassel, par opposition.
Non, est-ce pas que du ça, tout, ça, je vous... les adore. Non,
mais c'est pas la question. Est-ce que ça dit un peu ce qu'est l'énergie du livre? C'est-à-dire que vous avez trouvé ce métier difficile et peut-être il l'est pas pour tout le monde. Pour vous, il l'a été.
Déjà, traverser l'adolescence, la préadolescence, la majorité, c'est super difficile pour tout le monde, je trouve, parce qu'on nous raconte pas comment ça va se passer après 18 ans. Quand tu choisis un boulot qui est pas forcément un métier accessible par rapport à d'où tu viens, et quand tu montes à Paris tout seul en 85, tu te dis, Paris, la capitale, va m'ouvrir ses bras et puis je vais faire des films tout de suite. C'est pas le cas du tout, c'est barrage.
Vous avez tout connu, vous avez été livreur de pizza, vous avez connu la NPA du spectacle.
Domino's, chez Domino's Pizza.
Enfin, vous pouvez pas le dire, et vous avez commencé par être figurant chez Pascal Sevran. Ce qui était
un
peu mon rêve.
Tintin, il m'a même mis là. Oui, Pascal Sevran. Sacré coquin.
Et non, et puis vous, d'ailleurs, mon rêve, c'était pas ça, c'est de rencontrer Michel Thor sur le plateau. Mais, et quel conseil vous donneriez à un jeune comédien aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi l'épisode du super agent qui vous met la main entre les cuisses et ces choses-là. Donc tout ce qu'on imagine de noir du métier, vous êtes un peu arrivé.
C'est un casting directeur très connu qui m'a mis la main. Il m'a invité un soir au théâtre, il m'a fait du genou et un peu plus tard, il m'a dit voilà, le droit de cuissage, ça existe, pour réussir, faut coucher. Ce qui est complètement débile, mais bon, tu te prends ça dans la gueule, tu comprends pas ce qui se passe.
Et donc, qu'est-ce que vous diriez à un gamin de 20 ans qui arrive aujourd'hui? Est-ce que ce métier, c'est
de se mettre à l'anglais et de quitter la France.
Et c'est mieux ailleurs?
Ah ouais, c'est mieux à New York, c'est plus sympa. Ils sont moins arrogants, il y a moins de snobisme, ils sont plus cool.
Parce que ce que vous dites pas, c'est que vous refusez les avances du fameux directeur de casting et qu'après vous êtes blacklisté.
Oui, pendant 8 ans.
Pendant des années.
Pendant 8 ans, il m'empêche de travailler. Voilà. Ouais, Francis, c'est pas trop dur le métier, bien sûr. Bah oui. Puis ça, on l'oublie pas.
Mais aujourd'hui, à refaire, vous l'aimez ce métier? Vous...
Ah, j'adore ce métier plus que tout au monde.
C'est votre passion.
C'est ma passion. Ouais. C'est vital surtout de jouer.
Voilà, mais est-ce que la solution, du coup, c'est pas de se trouver des familles, parce que c'est ce que vous avez fait après?
J'ai eu la chance de rencontrer Olivier Marchal en 96 sur un quai numéro 1. Et puis on est resté il est très fidèle, c'est un altruiste, il adore les autres, c'est quelqu'un qui m'a réhabilité entre guillemets, on s'est raconté notre vie tous les deux un soir, on a terminé dans un bar à 5h du matin en pleurant l'un et l'autre, voilà. C'est quelqu'un, j'ai fait Gangster, 36 quai des Orfèvres. Mais il a dû m'imposer parce que la machine ne voulait pas, la mécanique du cinéma voulait pas forcément que je travaille aussi avec Olivier.
En tout cas, si vous voulez avoir une image du cinéma, vous regardez La Nuit américaine de Truffaut, lisez le bouquin de Francis Renaud. La vérité doit être un peu au milieu.
La rage au cœur, oui, le livre de Francis Renaud, La rage au cœur, publié chez Hugo Doc. Et moi, j'ai un excellent souvenir de vous dans la série L'affaire Villemain, où vous jouez le papa Jean-Marie. Jean-Marie Villemain.
Pour France 3.
Voilà, exactement.
Produit par Jérôme Minet, réalisé par Raoul Peck.
Et là, peut-être qu'il y a plein d'auditeurs qui... peu à bien peu sûr, se remettre l'image.
D'ailleurs, j'embrasse Jean-Marie et Christine. On a toujours, on est toujours en contact. Ce sont des gens qui m'ont extrêmement bouleversé. Et Jean-Marie a toujours été là sur la série tous les jours. Il m'avait laissé son numéro de portable et je pouvais l'appeler à chaque fois et lui demander des choses. Et la chose la plus dure pour moi, ça a été de trouver et d'être sincère dans la douleur. C'est terrible de perdre un enfant dans ces conditions-là. Grégory avait 4 ans.
Oui, c'est vrai. Il y a même une scène au cimetière que vous rejouez qui est terrible et qui fait que le réalisateur, c'était bien
Raoul Peck. Raoul Peck, il est formidable.
Voilà. Vraiment. Francis Renaud avec nous, jusqu'à 18h, bien sûr. Et puis autour de la table, il y a Constance, il y a Guillaume, Clara Dupont-Monod, Alex. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on écoute? Moi, je vous le dirai après. Vous allez... oui, c'est Born to Be Alive, je le savais. And whatever comes our way, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be Wolf sur France Inter. Born to be wild, comme notre invité Francis Renaud. Bon anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Francis Renaud, vous avez quel âge aujourd'hui?
27 ans.
Il sort du cours, Florence.
Ouais. L'acteur Francis Renaud qui est avec nous, qui publie La Rage au cœur chez Hugo Doc, que vous pouvez voir dans les films d'Olivier Marchal, ou avec Olivier Marchal, puisque vous tournez en ce moment le prochain film à venir qui s'appelle Le Papy Sitter avec Gérard Lanvin. Pour entourer et célébrer l'anniversaire de Francis Renaud,
qui est en train de servir un verre de jus de raisin.
Souler notre invité.
Et Constance et Clara Dupont-Monou.
Allez, l'info.
Bah, ça, je peux vous dire.
The greatest jobs president
that God ever created. The Journal of presque 17h17.
Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. I tell
you that. Et on commence par les titres.
Ce matin sur France Info, Bruno Le Maire s'est montré réticent envers la taxe sur les poids lourds proposée par François de Rugy. Il dit que la taxe, c'est une solution de facilité.
Eh ben, il semblerait que le nouveau ministre de l'écologie soit autant écouté que le précédent.
Un numéro d'urgence va bientôt être mis en place pour aider les pédophiles à ne pas craquer.
Oui, un conseil, évite si possible d'appeler le dimanche matin à l'heure de la messe, la ligne risque d'être occupée.
Des brèves ?
Oui, je sais, c'est la solution de facilité, mais il y aura des brèves.
On mettra une taxe, voilà. C'est aujourd'hui la journée mondiale du tourisme.
Et on a une pensée pour Manuel Valls, qui l'a beaucoup pratiqué ces derniers temps à l'Assemblée nationale.
Et on parle de lui, Manuel Valls.
Et oui, il a donné sa première interview depuis l'annonce de sa candidature à Barcelone. Et il a notamment déclaré...
En 2022, si l'Espagne et la France arrivent en finale de la Coupe du Monde, je veux que l'Espagne gagne.
Et dire que ce mec a bien fait chier Benzema parce qu'il chantait pas la Marseillaise.
En tout cas, pour un mec qui a tellement insisté pour inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution, il se départit un petit peu facilement de la sienne.
On le salue, Manu. Passons à l'affaire Benalla.
Non, on le salue.
Si, bah si.
Ah ouais, on le salue, d'accord.
Comme pour les droits d'auteur.
Okay. On nous a fait une belle quenelle, là, non?
On peut dire ça.
Merci, Guillaume.
L'avocat Laurent Franck Liénard abandonne la défense d'Alexandre Benalla pour les faits du 1er mai.
Oui, la vraie info, c'est qu'il y a des parents qui appellent leur enfant Laurent Franck.
Oui. Marine Le Pen a présenté...
J'ai appelé mon chien Benalla. Benalla, viens là. Couchez Benalla.
Oui, Marine Le Pen était ce matin sur RMC et Jean-Jacques Bourdin lui a posé une question inattendue.
Vous aimez le rap ?
Non. Non, moi je suis très chanson française.
Pauvre Michel, quoi. Il n'y a rien demandé.
Elle n'a pas dit sa chanson préférée.
Non, mais je pense qu'elle préfère Afrique à Dieu que musulmane. Oui, hein, pas se mentir.
Alors venons-en à cette initiative, ce numéro d'urgence qui va bientôt être mis en place pour aider les pédophiles.
Et vous savez ce qu'on va faire ? On va téléphoner, comme ça on va voir un peu ce que ça donne.
Bonjour, vous êtes bien sur la ligne d'écoute de prévention pédophilie. Tous nos opérateurs sont occupés pour le moment. Veuillez patienter avec la musique d'attente.
C'est le début.
Hein, passons à la suite alors.
Allez, on passe à la suite.
Oui, le jeu du morpion fait son retour chez les buralistes.
Oui, une belle allégorie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous voulez de l'argent, et bien vous pouvez toujours vous gratter.
Et à Paris, après une semaine bien chargée, Marcel Campion jette l'éponge. Il cesse ses activités foraines et se retire du marché de Noël à Paris.
Et oui, ça lui laisse le temps pour préparer la Gay Pride.
Voilà.
Des brèves. Meghan Markle a ébahi les Britanniques en fermant elle-même la portière de sa voiture.
Oula, quel exploit.
Eh oui, mais à la décharge des Anglais, il faut dire que les dernières expériences entre une princesse et la carlingue d'une voiture ne s'étaient pas bien terminées.
Allez, la dernière.
Et la dernière, la Chine a modifié le nom d'une rivière, jugée trop arabe pour lui donner un nom à consonance chinoise. Et je ne savais pas que les livres d'Éric Zemmour étaient traduits en chinois. Et tout le meilleur à cette rivière Corinne, donc.
Merci Alex Vizorek, à 17h25 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter et notre invité est l'acteur Francis Renaud qui publie un ouvrage qui s'appelle La Rage au cœur, publié chez Hugo Doc. Clara Dupont-Monod y reviendra tout à l'heure. Constance est là et en attendant, abordons ce premier sujet car la presse étrangère s'empare du malaise des policiers français. La fracture avec la population et les horaires impossibles. À la fin de l'année dernière, policiers et gendarmes avaient accumulé 21 millions d'heures supplémentaires non récupérées. C'est du jamais vu.
Ce qui me rend malade, c'est de voir qu'on ne fait pas notre travail.
Mais qu'est-ce que c'est notre travail ?
C'est assurer la sécurité de nos concitoyens. Arrêter les délinquants. Vous savez très bien d'ailleurs.
Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un ? Ah ben dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein ? Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'un mètre, interdit, article R38.7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là, c'est interdit, article G92. Le travelot, là, au coin, interdit en dehors des périodes de carnaval. Et les deux mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde. Allô ? Voiture 26 à autorité. Envoyez une urgence, 6 quarts de police, le nouveau a arrêté 250 personnes.
Et voilà comment éviter les heures supplémentaires. Noirel Hermite dans Les Ripoux, de Claude Zidi, bien
l'acteur,
sûr.
Comment s'appelle l'acteur?
Noiret.
C'est vrai, quel bon comédien.
Alors, c'est le Süddeutsche Zeitung qui...
Süddeutsche.
Pardon, vous l'avez bien dit.
Ouais. Ah, je, ouf. Donc, qui publie cet article « Désarroi des forces de l'ordre », relayé bien sûr par le Courrier international. Je n'ai pas lu... dans la version originale, ça je vous le confirme. Mais donc c'est fou, c'est-à-dire que même la presse étrangère traite de ce sujet. Alors, je me disais, la fiction, est-ce qu'elle tient compte de cette nouvelle situation où elle a toujours tenu compte en insistant sur le mal-être au service de l'histoire? Est-ce que vous qui incarnez, qui avez incarné des flics qui jouaient avec Olivier Marchal, vous posez cette question, vous vous dites, mince, là on arrive dans une espèce de situation qui est peut-être encore pire que ce que la noirceur qu'on peut décrire dans la fiction?
Oui, de toute façon, Olivier Marchal a su très bien dépeindre ce qui se passe par rapport à l'atmosphère et par rapport justement à ce métier qui est parfois un métier magnifique, mais plein d'embûches et puis de c'est des gens qui souffrent énormément. Et puis bon, un flic a pas le droit de pleurer. Donc un flic, s'il pleure, c'est dans un coin ou c'est en se prenant une bouteille de whisky et puis en voilà.
C'est exactement ce que décrivent les témoignages.
Courba, c'est ça, c'est un centre de sa tour, c'est un château, c'est ça, c'est un endroit où on peut les accueillir. Ils vont pouvoir rester quelque temps pour pouvoir décompresser.
Se mettre un peu au vert.
Non, mais c'est pathétique ce qui se passe. Moi, je comprends pas qu'on puisse balancer un cocktail Molotov dans une voiture de flic. Je comprends pas l'irrespect de l'uniforme. Cette honte, moi, ça me fait. Je comprends pas. Et à un moment donné, moi, quand j'avais 15 ans, j'avais peur de l'uniforme. J'avais peur d'un flic, quoi. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau de l'éducation. On a laissé passer des choses qu'on n'aurait jamais dû laisser passer. On a été trop laxiste.
Guillaume Meurice. Non, parce que je peux vous imaginer.
Non, pas forcément. 100% d'accord. Non, mais après, il y a une raison, il y a une colère sociale. Donc, effectivement, elle s'exprime parfois maladroitement, on va dire. Mais elle s'exprime quand même. Donc, comment elle doit s'exprimer quand on n'a pas la parole?
Mais pas contre les représentants de l'État, parce que les profs, ils ont le même souci aussi.
Oh oui,
c'est chaque fois qu'il y a une.
Les pompiers, on tape sur les pompiers. J'ai vu une photo sur Facebook où tu vois un pompier qui met son blouson, il dit je suis pas là pour te faire mal, me tape pas. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Mais les médecins, les infirmières dans les cités, il y a des gens qui ne peuvent plus y aller parce que même pour soigner ou porter secours à des gens, il y a des abrutis qui viennent avec des cocktails Molotov, des bars et qui assassinent tout le monde. C'est pas normal.
Le quotidien allemand montre ça d'ailleurs dans son article en expliquant que le concept du policier ami qui nous aide n'existe pas du tout en France, qu'en France il y a une centralisation, donc c'est Paris, donc c'est l'autorité, donc c'est l'État, et donc il y a une forme d'image d'oppression, contrairement à l'Allemagne où tout est, où c'est fédéral, où c'est délocalisé, etc.
Mais il y avait une police de proximité que Sarkozy a pété, quoi. Mais c'était pas une mauvaise idée. Il avait dit les flics sont pas payés pour jouer au foot avec les jeunes des banlieues, quoi.
Et quand on joue les flics sous la direction d'Olivier Marchal, ancien flic, est-ce qu'on arrive encore à jouer les flics ailleurs, ou il y a, si vous jouez ailleurs avec quelqu'un d'autre, il y a un sentiment de caricature?
Je joue un individu, je joue un homme, je joue quelqu'un qui a un boulot, et son taf, c'est d'être policier, ou voilà. Moi, j'ai un souvenir, une anecdote par rapport à Police District, une série que j'avais faite avec Olivier. On fait une scène dans un bistrot et on sort. Et là, on coupe, la caméra se coupe. Et là, dehors, on s'arrête à un feu rouge, je suis à côté d'Olivier Marchal, et t'as une Mercedes qui passe, la vide qui descend, et là, t'as un mec qui sort la tête et qui dit, toi, poulet, t'es mort, boum, boum. Et là, je regarde Olivier, et Olivier, il me regarde et me dit, t'inquiète pas, Francis, c'est tous les jours. Donc, ils sont confrontés à une violence quotidienne. C'est comme ce qui se passe en prison, avec les matons, mais c'est pas possible. On laisse des mecs avec des portables, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, faut arrêter d'être con, quoi. T'as fait une connerie, tu payes. Et puis tu vas pas dans une salle de sport, t'as pas un portable, et puis voilà, moi je le mettrais tous au newf. À un moment donné,
les 5 étoiles non plus. Allez.
C'est comme les pédophiles. À un moment donné, faut arrêter, quoi. À un moment donné, faut être brutal.
C'est-à-dire?
Non? Ben attends, à ton avis, Guillaume, tu veux que je fasse un dessin?
Je veux bien.
Sortons la guillotine.
Voilà. D'accord. On arrive toujours là. C'est le problème d'un discours comme ça, c'est que si on n'essaye pas de comprendre l'autre et la colère qu'il exprime, alors à ce moment-là, on en arrive, on va tous se buter.
C'est ce que j'entends à un moment donné, si tu veux. J'entends, moi, on parlait de brève, si tu veux. J'adore aller dans les bistrots et entendre ce que les gens disent. Eh ben, ce que t'entends dans les bistrots, c'est chaud, quoi, quand même. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol.
Mais ça, de tout temps, ils en ont eu ras-le-bol.
Ras-le-bol. Et on va toucher à un extrême. Moi, j'ai pas envie de voir cet extrême arriver non plus. Je suis pas forcément pour la peine de mort. Ça me fait chier, tout ça. Mais on est dans un putain de bordel où nos mômes sont en train de, ils sont dedans, quoi. Donc à un moment donné, il faut sortir de cette médiocrité. Et comment on peut sortir de là? C'est en étant raisonné, en étant intelligent et en ouvrant la parole. On a tendance à écraser à ce qui se passe dans la police, dans l'administration française. C'est terrible, c'est long, c'est poussiéreux, c'est poussif. C'est voilà.
Et dans la parole, donc.
Et dans la parole. Il y avait une phrase de Marshall que j'adore dans 36 qui disait « L'administration est une vieille femme, elle aime pas qu'on la prenne en levrette. »
On se souvient de ce passage, c'est
ça,
juste.
Ça, c'est fleuri.
Alors, et là, ça facilite. Pourquoi tu rougis là?
Là, d'accord, parce que je suis en empathie avec l'administration.
Ça facilite moi, pas avec ma transition avec Constance, ce que vous venez de dire.
Ah oui. Excusez-moi, je suis encore un petit peu bourrée d'hier soir. J'ai fait une sacrée fête en fait, parce qu'hier c'était le 26 septembre, la journée mondiale de la contraception. Oh la vache, quelle fête mes amis. J'ai bu au point d'en être déchirée comme un hymen de jeune vierge de 12 ans acheté sur un marché en Syrie. Oh là là, il me fallait fêter la magie de cette petite pilule qui permet de baiser à plein cul sans l'angoisse de tomber enceinte. Vous remarquerez cette expression de tomber enceinte. On ne dit pas rebondir enceinte ou virevolter enceinte, non, on dit tomber enceinte. On sent bien que dans le langage, il y a le reflet de longues années où le fait d'enfanter était une conséquence, un non-choix, pouvant déséquilibrer la femme au point de la faire tomber enceinte. Et nous, contrairement à nos mamies ou nos arrière-grand-mamies, nous pouvons choisir si oui ou non nous voulons fabriquer un nouvel être humain. Et ça, c'est infiniment précieux. Quel soulagement d'imaginer combien de petits Guy Georges ou de mini Joseph Mengele n'ont pas pu s'accrocher à une paroi utérine grâce à un vaillant stérilé. Louons la pilule du lendemain qui assure la non-venue au monde de tous ces enfants qui auraient dû un jour apprendre à être le fruit d'une sombre partouze de candidats de télé-réalité. Petite danse de la joie à la gloire de toutes ces vaillantes capotes qui régulent la naissance et soulagent la planète au bout du rouleau de la naissance de tous ces nouveaux abrutis. Parce que oui, c'est complet, la Terre, elle n'en peut plus et elle nous dégueule. Alors tant qu'on n'a pas trouvé de véritable solution au problème de surpopulation, on arrête de se reproduire comme des petits lapins. Ou alors on trouve un autre système, genre on pourrait enfanter tous les animaux disparus à cause de nos conneries et rééquilibrer la planète. Moi par contre, je suis pas volontaire pour mettre au monde les rhinocéros blancs. Non, j'ai trop peur de la grosse corne. Je veux pas la démouler. Et si on inventait une pilule, par exemple, pour chier des arbres? Vu le nombre de petits cacas qu'on fait tous les jours, on pourrait réparer l'Amazonie très vite. Choisis comme variété le bonsaï. Voilà. Souvent, quand je parle et que j'essaye de donner des idées ou des solutions pour changer les choses, j'ai l'impression qu'on me considère un peu comme une personne farfelue. Un peu comme un monsieur qui voudrait monter un business de sèche-linge dans le Sahara. Mais ça ne me fait pas souffrir. Non. Parce que la vie est une question de point de vue. Et je préfère me dire que la roquette est une variété de salade plutôt qu'une affreuse bombe.
Bravo, magnifique.
Merci, Constance.
Elle est unique quand même.
Ouais, mais elle a piqué ça à Blanche Gardin.
Non, c'est pour déconner.
Je plaisante.
Il aime lancer des débats, Francis Renaud.
Tout de suite.
On a compris.
Non, par contre, par rapport à la planète, moi j'ai suivi quelqu'un de magnifique. Il faudrait le recevoir.
C'est chevelu là.
C'est non. C'est
Nicolas Hulot.
Non.
François Drugy.
Rémi Camus, le Tour de France à la nage 2018, qui a fait Dunkerque. Dunkerque-Monaco.
À la nage.
Ben oui, à la nage. Ouais, il est temps qu'il est musclé. C'est un beau gosse. Et je l'ai rencontré par hasard, voilà, à Cassis. On a fait connaissance. Et j'ai suivi son exploit où il sensibilise les gens par rapport à l'eau, à la pollution. Et on s'est amusé, moi, avec mes filles, par exemple, à ramasser les mégots. Il y a trop de mégots sur les plages. Et à un moment donné, le problème aussi, c'est ça. C'est arrêtons de jeter des saloperies partout.
Les incivilités.
C'est exactement.
Oui. Francis Renaud avec nous.
Zombie.
Rien à voir avec vous, c'est notre petit
film. C'est mutant.
L'acteur Francis Renaud avec nous jusqu'à 18h.
C'est pas jusqu'à 20h?
C'est la maladie du sommeil. Les frères sont en mode veille. Comment voir plus loin que le bout de son joint?
Allons-je t'aider?
meurs bougon. Mais pas si on s'est du bégon. La tête dans le guidon, cache-ton, soporifique. Musique, attrape, clic, 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 clic. Sur les nuisibles, insectes, rampants, invisibles.
Aux animaux à côté les mains.
Grossing, grossing.
Aux animaux à côté les mains. Animaux à côté les malos quoi la liboke à bas zombie
zombie zombie moustiquaire anti pop antiseptique ou antidote zombie au pied nickelé torché ou juste perché. Est-ce qu'on a le teint répulsif ou la vue parasitée ou est-ce que t'es piqué au vif dans ton sommeil agité
maman mais ça n'a soukale en gonde liwa.
Parce que mortelle est la routine, que le cœur se résigne. Grossing, grossing, immobile, mais le fond qui dégouline. Grossing, grossing, remue le bras pour voir si t'es encore en vie. Grossing, grossing, ou si t'es zombie, zombie, ou si t'es zombie, zombie.
Aux animaux à côté les mains.
Grossing, grossing.
Aux animaux à côté les mains.
Grossing, grossing.
Aux animaux à côté les mains.
Grossing, grossing.
Vous écoutez France Inter et nous aussi, ça tombe bien, avec Francis Renaud, l'acteur qui est en notre compagnie et qui publie un livre qui s'appelle La Rage au cœur, publié chez Hugo Doc. On va y revenir tout à l'heure. En attendant, il y a Guillaume Meurice.
On est les champions ! On est les champions ! Qui c'est le champion de la Terre ?
Non. C'est la France !
C'est Manu. Dans ton cul, Superman, voici Supermanu, champion de la Terre. Putain, ça claque, hein ? Oh la vache, tu peux pas faire mieux normalement. Clara, vous avez été Miss Touquet en 64. Déjà, c'était pas mal. Mais là, c'est quand même la grande classe. Il a reçu ce titre à l'ONU. Ça, on a tous suivi. L'ONU, ça déconne pas. Hein, c'est sérieux. Hein. Quand Bachar el-Assad, il bute son peuple, ou Netanyahou, il défonce des Palestiniens, c'est l'ONU qui se réunit et qui fait... Alors, non, hein, voilà. Bon, des fois, c'est vrai qu'on dirait quand même de Rugy qui essaye de dresser un pitbull. Mais c'est le top du top, l'ONU. Et c'est eux qui ont sacré Manu. Et les autres pays, ils ont trop les glandes. Et moi, je suis allé les voir ce matin, les autres pays. C'était le Salon du Tourisme, Porte de Versailles à Paris. On commence par ces gros ringards du Costa Rica, soi-disant les champions de la nature et des écolos, n'importe quoi.
C'est un pays très nature, très écologique en plus, avec beaucoup de parcs nationaux.
Vous êtes très écologique et vous avez des parcs, mais est-ce que vous avez vu qui vient d'être sacré champion de la Terre?
Ah non?
C'est Emmanuel Macron.
Ah, c'est vrai, tout à fait.
Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Emmanuel Macron, champion de la Terre? C'est ça, fous-toi bien de notre gueule. En tout cas, c'est nous qu'on a de champion. Ah, c'est fou, hein, ils sont agressifs. Et même, même que sa meuf au champion, c'est qui? C'est Brigitte, elle est marraine d'un panda. Alors c'est qui les écolos? Un vrai panda, hein, pas Jean-Pierre Raffarin, un vrai de vrai. Hein. Bam! Prends bien ça dans la gueule, le Costa Concordaricain, je sais pas quoi. Bon, ils étaient tous dégoûtés, autres pays, ce matin. Écoutez les représentants de la République Dominicaine.
Je ne comprends pas.
Ah, vous comprenez pas?
Non.
Vous comprenez pas qu'Emmanuel Macron soit champion de la Terre?
Il n'y a pas champion de la Terre.
Si, il est champion de la Terre.
Non, il n'y a pas le président.
Ah, il est président français et champion de la Terre en plus.
Bon, je pensais que le champion du monde, c'est Danilo Medina, le président de Dominique Républicaine. C'est le champion du monde. Champion de la Terre et du monde.
N'importe quoi! Son président, il serait champion de la Terre et du monde. À nous, à ce moment-là, on sera champion de l'univers. Et puis voilà, qu'est-ce que tu vas faire, l'étranger? Retourne à l'étranger! Pardon, excusez-moi. Puisqu'on est raciste, tiens, allons voir l'Italie. Qu'est-ce qu'il pense de Macron? Qu'est-ce qu'il pense l'Italie, Macron, champion de la Terre?
Ça, c'est une question un peu difficile, là, donc...
C'est vrai, hein?
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai.
Aux Nations Unies.
Oui, ça me fait rigoler aussi, hein.
Ah, vous êtes jalouse d'Emmanuel Macron?
Non, pas du tout, hein. Pas d'Emmanuel Macron, non.
Non seulement vous n'avez pas eu la Coupe du Monde, et en plus, vous n'êtes même pas champion de la Terre.
Écoutez, mais on ne peut pas avoir tout, ce monde, donc on est content quand même, oui.
T'es bien dégoûtée, ouais.
Elle a un rire qui fait peur.
Mais ouais, fait flipper, parce qu'elle a le seum, évidemment, on dirait une Belge. En plus, elle a Matteo Salvini qui refuse d'accueillir l'Aquarius, alors que nous, on a Manu Macron. Enfin, c'est un mauvais exemple, ok, mais bon. Attends, si tous les Africains ils veulent venir en France, c'est pas que pour le KFC, c'est aussi pour prendre un selfie avec Manu Macron. Tiens, par exemple, la Mauritanie, Macron est champion de la Terre.
Ah bon?
Ah oui, les champions de la Terre.
Ah bon? Ça, je ne le savais pas. Ça, on l'a passé encore, c'est le salon.
Ça vous met pas trop la rage que ce soit Emmanuel Macron qui soit champion de la Terre?
Non, pas du tout. Du moment que c'est là, nous, on était colonisés par les Français. Donc, si c'est la France, qu'est-ce que tu veux? On est bien d'accord.
Ah ben, ça, c'est bien. Ça, c'est fair play. Les bienfaits de la colonisation. Ça, j'aime bien. C'est pour ça que Manu, il va aux Nations Unies. Il va donner des leçons à la Terre entière. Hein, vous avez vu les images? Il tape comme ça sur son petit poing avec la table. Il est rentré chez lui. Il était colère. Hein. Il a vomi tout son boulgour. D'ailleurs, il s'en est servi du vomi pour faire son discours du lendemain, parce qu'il recycle les champions de la Terre, je vous rappelle. Et nous, les Français, on est contents et on n'est pas étonnés par son titre.
Ça ne m'étonne pas.
Ça ne vous étonne pas?
Ah non, pas du tout.
C'est un bon champion de la Terre?
Ah oui. Moi, j'aime bien Macron.
Pourquoi c'est un champion de la Terre, alors, selon vous?
Je trouve qu'il vient de la Terre et il est remonté.
Il vient de la Terre. Il vient de la Terre, Manu, il vient de tout en bas. C'est un petit gars d'Amiens qui est arrivé à Paris comme ça avec sa petite valise. Il a traversé la rue, paf, bon coup de bol, c'était la banque Rothschild. Hein, il y a Jacques Attali qui lui a tenu la porte. Bon, il y a Laurent Delahousse qui lui a baissé son froc. Bon, ça, oui, c'est de la chance aussi. Mais il va aller très haut, il va aller très loin. Et il va aller très loin comment? Il va y aller en bus Macron. Ils étaient là ce matin, n'est-ce pas, Ouibus?
Oui, c'est pour ça que du coup, il adore Ouibus et il a bon goût, donc on est content et on le félicite.
Mais ils sont diesel, ces bus?
Ça dépend des modèles. Mais je vous avoue que je peux pas rentrer dans ces détails, j'ai pas toutes les infos.
Non, à mon avis non, hein, parce que ça peut pas être le même qui a foutu des milliers de bus sur la route que celui qui a été sacré champion de la Terre. Ce serait comme si Alex Vizorek, il était humaniste, et puis qu'il participerait au putasserie de Canal+, toutes les semaines. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Hein, Macron, il est écolo, il bouge et vive la France.
Ben voilà, économiquement, il essaie de faire des choses, alors ça plaît pas à tous. Il essaye un autre modèle, ça plaît pas à tous.
C'est vrai qu'il essaye un autre modèle. Avant, on était dans un système libéral, maintenant, c'est néolibéral.
Voilà, donc il essaye un peu de compenser, il a fait un virage à droite, après il va faire un virage à gauche.
Il va faire un virage à gauche, hein?
Je sais pas, d'un point de vue en même temps sociétal, il fait pas des choses à gauche?
Non, mais c'est parce qu'il est écolo, il fait crever les gens et ça fait du bon compost. Alors vive Manu Jupiter, vive le champion de la Terre et de celles et ceux que lui et ses amis enterrent.
Merci Guillaume Meurice. Vous êtes sur France Inter, les champions de la Terre, et c'est Francis Renaud, notre invité. Et on va partir vers l'Est. Le Grand Nancy lance un jeu pour inciter les gens à marcher. Ça s'appelle les mollets d'or. Alors vous téléchargez l'application sur le smartphone, et quand vous marchez, ou vous roulez à vélo, vous pouvez gagner des bons d'achat chez les commerçants, des cadeaux et des tickets de cinéma. Super. On va apprendre à marcher après.
Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème. On l'attendra. Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Ben, on a pas oublié. Boulevard dans les rangs d'honneur, le film de Philippe Harel. C'est un article paru dans l'Est républicain qui explique que voilà, le Grand Nancy propose aux gens de marcher, d'enclencher le smartphone avec l'application. Comme ça, on engrange voilà, des points, on roule à vélo, on gagne un mollet d'or et puis des réductions en veux-tu, en voilà. Alors Francis Renon, on s'est dit, on en est là. Donc pour inciter les gens à marcher, il faut promettre des cadeaux. Est-ce que vous auriez un avis là-dessus, vous? Parce qu'on est un peu perdu.
Moi, je trouve ça vachement bien. Tu peux remplir ton panier en marchant. Donc tu es chez Carrefour, tu marches et tu remplis ton panier, ouais. Tout est gratuit.
Ouais.
C'est cool.
Oui, c'est vrai que dans le fond,
non,
c'est pas mal.
Il faut avoir beaucoup de tours de Carrefour.
Bah, c'est ça.
Ouais. Il faut beaucoup marcher.
Moi, ce que je trouve effrayant, c'est l'irruption des smartphones et de toute la technologie dans nos petites vies. Il y a des montres comme ça connectées qui vous disent attention, vous êtes resté assis trop longtemps. Maintenant, il faut aller un peu marcher. On vous dit combien vous avez dormi, quelle est la qualité de votre sommeil. On vous dit c'est affreux la mainmise de la technologie sur nos santé.
Ouais, mais si bientôt, on va avoir une petite puce greffée. D'ailleurs, il y en a déjà. Hein.
Mais avoir envie de s'avachir devant une série télé en mangeant des pots de glace au chocolat va devenir un crime, en fait.
Ça va, Finkielkraut, ça se passe bien.
Mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Ça
aucun rapport, c'est débile comme
ça. Si, il a raison, Guillaume. Non, je suis d'accord. Moi, non, mais Finkielkraut, c'est vrai. Déjà, il faut prononcer. Hein. Finkielkraut.
Bah, dites Finky. On l'embrasse. On embrasse, on l'aime beaucoup.
Ah, c'est vrai.
Oui.
Non, mais on n'est pas obligé d'installer les applications, en fait.
Non, mais je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup le choix à terme. Je ne suis pas sûre qu'à terme, on ait tant le choix que ça.
Mais donc, c'est marrant, c'est la ville de Nancy qui s'inquiète pour ses concitoyens et qui propose la chose. Je ne sais pas si est-ce que c'est infantilisant, est-ce que c'est encourageant.
Service public.
Qui ouais, ça vient.
Ils sont vachement bien au service public. Ils ont des bonnes idées. Hein.
Dans l'Est, on marche beaucoup parce qu'il paraît que, du côté de Nancy, alors c'est ce que raconte l'Est républicain, c'est déjà une, un endroit en France où on marche beaucoup.
Il y a beaucoup de randonneurs, ouais. Non mais moi je trouve ça sympa, mais bon après des applications, il y en a de partout, quoi. Faut savoir choisir la bonne.
Mm-hmm. Mais là, c'est... si ça peut faire gagner des places de cinéma.
Vous savez s'il y a une application qui existe pour gagner des cadeaux si on se lave le cul.
Ben, on pourrait la proposer.
Je m'attendais. Pas...
On pourrait la proposer.
Chose non, mais de brillant.
Elle a raison, c'est ça. Ça va devenir comme ça. Elle a raison.
Ben oui.
Et non, puis mais... ce système de récompense, là, c'est insupportable. C'est...
Mais déposez-la cette idée, Constance.
Une image sympa, tiens.
Mais c'est déjà fait. Hein.
Oui. Déposez-la, on ne sait jamais. Allez, c'est Clara Dupont-Bonneau.
Bonsoir.
Allez, bonsoir. On va revenir un petit peu vers la littérature. On va élever un petit peu le niveau de cette émission.
Oui, parce que l'actualité, Charline, c'est aussi le livre de notre invité, Francis Renaud, La rage au cœur. Alors, je l'ai lu comme le récit d'une grande obstination. D'ailleurs, il aurait pu s'appeler, si je peux me permettre, Lâche rien, qui aurait été bien aussi. Mais bon, La rage au cœur, ça ira très bien. Mais Lâche rien aurait été pas mal aussi.
Ah, j'avais compris autre chose, Lâche rien.
Non, Lâche rien. Parce que c'est le récit d'un magnifique agrippement. C'est-à-dire que vous vous cramponnez à votre passion, qui est le cinéma, alors qu'à la base, vous n'avez ni réseau, ni fortune. Et comble du crime, vous l'expliquez très bien, vous ne venez pas du sérail. Vous n'avez pas la lignée Audiard ou Cassel. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là que votre amitié avec Olivier Marchal se noue, puisque lui-même ne vient pas du milieu, et il va vous offrir quelques très beaux grands rôles, comme notamment, vous l'avez cité tout à l'heure, votre rôle dans 36 Quai des Orfèvres, le film d'Olivier Marchal. Alors dans ce film, il se trouve que vous incarnez un policier qui s'appelle Titi. Vous avez le crâne rasé, vous avez fait de la musculation, vous êtes entré dans la... Ah ben c'est ce que vous dites dedans. Hein, dans
mais
le
c'est
livre.
Faux, non, mais il ne faut pas tout croire dans le. Enfin, non, oui, mais évidemment, j'ai fait
mais c'est ça quand on n'écrit pas son livre.
C'est voilà. Ce qu'on appelle la gonflette.
Ce rôle-là, il est inoubliable, ce que je dis.
Mais si, oui.
Vous avez fait de la gonflette.
Le sport.
Vous êtes entré dans la peau de ce policier et, j'espère ne pas vous l'annoncer, mais vous êtes très convaincant. Et justement, Francis Renaud, il se trouve que j'ai trouvé votre prochain rôle. Il est dans ce roman qui s'appelle Évasion. Ce livre doit devenir un film d'Olivier Marchal. C'est obligé. Le rôle est fait pour vous. Il se trouve que j'ai lu Évasion en parallèle de La rage au cœur et ça m'a sauté aux yeux comme quoi parfois la littérature est le meilleur des impresarios. Évasion, et vous repartirez avec, c'est l'histoire de Jim, un flic très obstiné, comme vous, qui doit traquer 12 détenus qui viennent de s'échapper de la prison. Donc on avait 12 hommes en colère, là on a 12 hommes en galère, puisque nous sommes au fin fond du Colorado, au pied des montagnes rocheuses, et qu'une tempête se lève. Du coup, les fugitifs n'ont pas beaucoup de choix, la panique gagne, les trajectoires se séparent, et chacune va laisser une traînée de sang. Il se trouve que Jim connaît parfaitement l'odeur du sang et même il la flaire. En fait, c'est le meilleur traqueur des États-Unis. Par exemple, à un moment, il trouve des empreintes dans la neige. Il les observe et il dit « ils sont fatigués ». Son collègue, je cite « ben merde alors, comment tu sais qu'ils sont fatigués ?» La façon qu'ils ont de traîner les pieds. Jim s'accroupit devant une des empreintes et souffle dessus. Là, regarde, tu vois comment la neige la recouvre ? Donc, juste en regardant la manière dont la neige recouvre une empreinte, il devine l'état psychologique de celui qui marche. Et puis, juste, je vous vois, Francis Renaud.
Oui, moi aussi, je vous vois là. Oui,
non, mais je vous vois accroupi dans un blizzard, au bord d'une empreinte, avec un bonnet sur la tête, les yeux comme des fentes. Ce rôle est fait pour vous. J'ajoute que, comme vous, Jim est parfois regardé de travers par son entourage. Alors, il n'est pas aidé, puisqu'il est entouré par des bras cassés, des incapables, des égocentriques, des brutaux. Mais il surnage et il se distingue. Pour la petite info, Benjamin Whitmer, l'auteur de Évasion, c'est un orfèvre du noir. C'est-à-dire qu'il a découper son texte exactement comme on peut, entre guillemets, cisailler un cadavre en tranches très très fines. Et chaque mince chapitre...
Un carpaccio ?
Un petit peu, exactement. Il écrit comme on fait un carpaccio. Et chaque mince chapitre est lié à un acteur de l'histoire, tous désignés non pas par leur prénom ou leur nom, mais par leur fonction. Il dit pas Jim, il dit le traqueur. Il y a le journaliste, il y a le détenu, il y a la hors-la-loi et j'en passe. Et il se trouve que Benjamin Whitmer écrit de façon... sèche, ramassée, un peu comme un coup de poing, et il s'inscrit dans la pure tradition du roman noir américain, c'est-à-dire qu'en fait, il porte cette ambivalence qui est, en gros, le mal c'est mal, mais parfois c'est bien. C'est-à-dire que toute la littérature noire américaine porte cette ambivalence qui consiste à condamner la violence et en même temps entretenir une vieille amitié avec la violence. Et alors, cerise sur le fusil, si je peux me permettre, mais Benjamin Whitmer vient en France au festival Un aller-retour dans le noir, qui est un super festival qui se tient à Pau du 3 au 8 octobre, et il sera un des invités de marque.
Très bon festival, Un aller-retour dans le noir.
Mars, ça me rappelle.
Non,
c'est lent.
Non.
Ouais. Ah non, c'est, oui, non, c'était voilà. Peut-être pas le même.
Le président n'est pas Gilbert Montagnier, oui, ça vous aviez l'affaire, j'imagine, voilà. Alors, je vous donne les références du prochain César de Francis Renaud, Évasion de Benjamin Whitmer.
Non, un Oscar, parce que vous m'annoncez Oscar, que je vais tourner en fin de compte avec les frères Cohen, là.
Ouais.
Ah, ça serait top.
Vous, c'est fait pour vous.
I speak English.
It's a good news. Oh, merci Sarah, rappelez les références.
Oui. Little Mockery.
C'est publié chez Gallmeister.
D'accord.
Et c'est pour vous.
Ah, mais merci beaucoup.
Merci Clara Dupont-Monod pour cette lecture qui partait du livre de Francis Renaud. La rage au cœur, c'est son livre, paru chez Hugo Doc. Abordons ce dernier thème avec vous, les amis, car plus de 50 ans après Un homme et une femme, Claude Lelouch tourne actuellement la suite de son film légendaire avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Pour les 20 ans, il y avait déjà eu une suite. Alors, allons voir sur les planches de Deauville si tout se passe bien, Claude Lelouch, ça va? Tout va?
Il me traite comme un vieux et ça me fait malice. Il couchait tôt, et la tisane, et la flanelle, bon, et à table, pinard. De l'eau dedans, comme si j'avais 6 mois. Tiens.
Dites donc pas tout ça, vous êtes tout fier d'être grand-père.
Oh, pensez-vous, tout entouré de petites teignes, des sales petits mêles d'eux. Oh, bah t'as raison, mon Blaise, ton rôle c'est d'être respecté. C'est bon, parce qu'on est des vieux, qu'il faut nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.
Les vieux de la vieille de Gilles Granger, ça date de 1960. Et donc, actuellement, et aussi la semaine prochaine, Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, joue pour Claude Lelouch, à Deauville. Trintignant, qui a 87 ans, malgré une très mauvaise santé, il retrouve Anouk Aimée. Est-ce que ça vous touche ou ça vous interpelle?
Ça sent un peu la naphtaline, ça, non?
C'est le risque, mais c'est vrai qu'on a tellement aimé, en fait, on a tellement aimé. Et en même temps, ici, on est quand même, c'est peut-être...
On a un sentiment un peu ambivalent de se dire à la fois c'est touchant
à la
et à la fois...
je me demande en quelle mesure il y aura quelque chose de plus émouvant que le deuxième, que 20 ans après, qui était effectivement une espèce de remake qui avait sans doute été fait un petit peu parce qu'on lui avait demandé. Ouais. Et ici, c'est peut-être une volonté. Et puis, Trintignant, aujourd'hui, il y a quelque chose de fort, rien que quand il paraît à l'image.
Shabada-bada, shabada-bada.
C'est sûr que la voiture de sport est une autre...
Récupérer sur
mais
le quai
de la gare. Francis Renaud, vous qui avez vraiment la passion du cinéma, vous vous verriez jusqu'au bout tourner. C'est la passion du cinéma, ça peut vraiment être à ce point-là jusqu'à. C'est un peu comme Molière.
Pour moi, c'est vital, mais après, ça dépend des gens. Pour l'instant, depuis 2 ans, je ne fais plus grand-chose. Mm-hmm. Mais je reste debout, je vais continuer à essayer de réaliser mon rêve de gosse, mais c'est vrai que j'ai
pour vous c'est un combat aussi de
ouais c'est un combat
il y a pas
c'est
qu'à
combat.
Traverser la rue quoi pour
non mais moi
rôles.
J'ai pas envie d'être formaté, j'ai pas envie de marcher à 4 pattes comme un mouton, donc aujourd'hui c'est simple, voilà. Et c'est toujours les mêmes qu'on voit, donc à un moment donné, il faudrait un petit peu renouveler le système, il faudrait un petit peu réécrire des choses, aller plus loin, et puis écrire aussi des trucs un peu plus... Voilà, le cinéma, c'est quand même une... C'est riche, le cinéma, c'est beau, c'est fort.
Mais il n'y a personne qui a une filmographie
Kev Adams,
tu m'entends?
Kev Adams, tu vas arrêter de faire le corps, oui.
Non, mais il a le droit d'exister, comme il peut y avoir du cinéma d'auteur.
Vous allez un peu loin avec Vizorek.
Non, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde.
Même pour Catherine Breillat, hein.
Avec qui vous avez tourné.
C'est le cauchemar.
Lisez le livre de Francis Renaud. Mais sinon, Un homme et une femme, est-ce que c'est un film que vous avez...
Ah non, pas du tout. Non,
vous vous rappelez pas l'avoir vu?
Moi, je suis plutôt Robert Enrico, Les Grandes Gueules, Le Vieux Fusil. Moi, Lelouch, il m'intéresse pas.
Vous avez fait une audition avec Lelouch?
Oui, il m'a cassé. Vous avez beaucoup de talent, mais je sais pas comment on va faire pour le montrer devant la caméra. Parce que Lelouch,
c'est
comme Luc Besson. Ça faisait un bout de temps que j'envoyais des photos, des courriers, etc. pour le solliciter. Puis un jour, on m'appelle, on m'a dit, vous avez rendez-vous avec Claude Lelouch, dans ses bureaux, au film 13. Et j'attends, je rentre, j'ai le cœur qui bat, je sais plus où me mettre sous la table ou sur le bureau. Et là, il y a quelqu'un qui descend, je monte dans le bureau de Claude Lelouch, et je m'assois à côté de son assistant, et Claude me regarde, il allume sa petite caméra, il me dit, maintenant, tu insultes-le. Hein, insulte-le. Donc j'insulte son assistant. Après il me dit alors maintenant tu lui dis je ne t'aime pas. Bah, je t'aime pas. Et là il pose sa caméra et c'est là où il me dit vous avez beaucoup de talent, mais je sais pas comment on va faire pour le faire ressortir devant la caméra. Et là je suis cassé.
Ah ouais.
Cassé. Et là je sors je vais dans ma chambre de bonne et je lui écris une lettre où je l'assassine. Et je lui dis, mais comment tu peux faire ça à des apprentis comédiens? Comment tu peux dire un truc pareil? C'est dégueulasse. Ça se fait pas.
Nous, on a un rôle pour vous.
Ah oui, je prends. Je signe.
Allez.
C'est bizarre. Okay. Alors là, je peux vous dire, c'est pas n'importe quoi, c'est le rôle d'Emmanuel Macron.
Ah,
parce qu'il partit à la Martinique avec une Dream Team, comme on l'appelle. Agnès Buzyns, François de Rugy, Annick Girardin, Jacques Mézard.
Voilà.
Autant vous dire, si tous les problèmes de la Martinique vont être réglés en 2 coups de cuir à peau. Ils arrivent là-bas, Charline est Agnès Buzyn, Guillaume Meurice est un passant sur les marchés.
Il a beaucoup de talent, mais je ne sais pas si au micro ça va marcher.
Eh ben, on va voir. Et moi-même, je suis François de Ruy.
Ben moi, ça va me faire du bien ce petit voyage en Martinique parce que, entre les vieux et les malades, moi j'en peux plus. Hein,
Au moins, ici, il n'y a pas trop d'hôpitaux. Alors, ici, nous sommes en territoire ami. J'y suis passé il y a 2 ans et j'ai été accueilli comme un roi. Hein, Brigitte?
Oui, non, mais il fait chaud ici. Vous pensez que c'est à cause du réchauffement climatique?
François de
Rugy. Non, ils vont encore dire que c'est de ma faute, j'en suis certain.
T'inquiète, on dira que c'est la faute de Hulot. Ah.
Mais non, François, c'est normal qu'il fasse chaud. On est aux Antilles, on est sur une île. Enfin, c'est bien une île cette fois-ci. Comme
Oui. Emmanuel, la Martinique, c'est une île.
Mais c'est bizarre, j'avais pas le souvenir qu'il y avait tant de bâtiments détruits la dernière fois que je suis passé.
Emmanuel, là c'est normal parce qu'il y a la tempête Kirk en ce moment en Martinique.
Quoi? Une tempête? Non mais c'est de ma faute, je suis sûr qu'ils vont dire que c'est de ma faute.
Arrête François.
Non mais c'est quoi tous ces gens agglutinés là-bas?
C'est une manifestation pour se plaindre des eaux polluées par l'accordéon.
Oui, c'est ça, oui.
J'arrive, j'ai mes lunettes, j'arrive. C'est quoi Guillaume?
Chlordécone. Chlordécone.
Oui. Et après, il y a non, je déconne.
Mais non, je déconne.
Ah, ben voilà.
Bon, ah tiens, si on allait rencontrer les Martiniquais, ça va nous faire du bien, un petit bain de foule. Hein? Bonjour monsieur.
Ouais, c'est ça, bonjour.
Vous travaillez dans quoi?
Ben non, je travaille pas, il y a 20% de chômage ici.
Et vous cherchez dans l'horticulture, j'imagine?
Ben oui, mais le problème, c'est qu'on est sur une île, donc si je traverse la rue, ben j'arrive dans l'eau.
Vous ne savez pas nager?
Non, c'est pas ce qu'il voulait dire.
Ben, dites-moi, vous pensiez être en vacances là? Vous êtes venu avec votre grand-père, vous?
Non, c'est Jacques Mézard.
Ben comment vous voulez que je sache?
Ben, c'est le ministre de la cohésion du territoire.
Ah, c'est pour ça que vous avez celle qui s'occupe des vieux, là.
Ouais, je m'occupe de la santé, moi.
Oui, donc monsieur n'a pas tort.
Et c'est qui celui-là, là? Tu peux t'approcher, on va pas te manger. Hein.
Bonjour, je suis François de Rugy.
Eh bien.
Je n'y suis pour rien, c'est Nicolas Hulot.
Eh ben, c'est à cause de vous que mon père pêche des poissons contaminés. Hein.
Ah, donc votre père est pêcheur? C'est un beau métier, hein? Dites-moi, on ne pêche pas beaucoup de Comoriens dans le coin? Hashtag Aquarius.
Ouais, franchement, vous êtes triste.
Hein? Oh, sur un autre ton, hein, sinon je rentre en France.
Mais on est en France.
Ah mais vous êtes impitoyable.
Francis Renaud, merci. Je rappelle votre livre, La rage au cœur, paru chez Hugo Doc. Merci à tous les amis, on va se retrouver demain avec Régis Laspalès. Et voici le mot de la fin avec lequel on va rendre hommage à la chronique littéraire dans cette émission.
C'est-à-dire qu'il a découpé son texte, comme on peut cisailler un cadavre, en tranches très très fines.
Un carpaccio.